On ne change pas une équipe qui gagne. En ouverture de nos Margoguettes, c'est à nos chroniqueuses reconnaissantes que nous confions la lourde tâche d'ouvrir le bal. Retrouvons Isabelle pour sa deuxième chronique à l'ombre des arbres.
La planète brûle, l'Amazonie tousse et le rapport du GIEC vous donne des insomnies. Venez lutter avec nous contre l'éco-anxiété en posant les pieds sur notre territoire auprès des hommes, des femmes et des enfants qui plantent des arbres. On le répète souvent dans cette chronique des jardins reconnaissants, planter un arbre, c'est un acte de confiance en l'avenir. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être accompagnée de Sabine Charles, médaillée d'or officielle de cette confiance en l'avenir, puisque avec sa famille, son mari Laurent et leur fille Juliette, ils ont entrepris la création d'un jardin forêt aux portes de Mont-de-Marsan sur la commune de Basconce. 500 arbres plantés en 2020, 200 de plus en 2021. On peut dire que vous préparez en famille l'oxygène de demain. Alors tout d'abord, un grand merci Sabine pour ton accueil. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu plus ton parcours personnel, le chemin qui t'a amené jusqu'à cette idée de forêt-jardin ?
Bonjour, j'ai 52 ans, je suis enseignante à l'école d'infirmière et j'ai découvert la permaculture en 2015. Un peu par accident. Et voilà, effectivement, j'ai un projet. On a acheté avec mon mari un terrain de 3,80 hectares à Basconce. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train d'implanter un jardin forêt. Et là, dimanche, on en était à 859 arbres plantés.
Et alors concrètement, donc il y a tout un parcours pour arriver à ce désir-là, la découverte de la permaculture. Et après, concrètement, comment ça se passe? Comment on réfléchit à l'implantation? Dans quel ordre on fait les choses?
Alors déjà, j'avais fait une formation à Rion-des-Landes, à l'École Eugéno, des cours certifiés de permaculture en 12 jours, où effectivement, j'avais un peu découvert le concept de jardin-forêt, qui est en fait une méthode de production qui est inconnue en France, mais par contre qui est en zone tropicale et extrêmement développée depuis des millénaires. Du coup, j'ai appris effectivement la conception de ces jardins-forêts où on plante des arbres mais de différentes tailles, avec des systèmes racinaires qui vont se compléter et non pas se gêner, avec des modes de production qui vont être le bois, mais aussi des plantes médicinales, des arbres fourragers, des arbres qui donnent à manger, fruitiers, des arbres qui aident à restructurer les sols un petit peu malades. Donc on apprend tout ça à ces cours certifiés de permaculture. Et puis ensuite, mes lectures le soir au lieu de regarder la télé, c'est vrai que je lisais beaucoup, beaucoup sur les arbres. Et puis j'ai cherché pendant 2 ans et demi acheter un terrain non constructible. Alors au départ, je partais sur peut-être 1000 mètres carrés, 5000 mètres carrés m'auraient convenu en non constructible. Et puis finalement, j'ai eu une superbe opportunité qui s'est offerte à moi au bout de 2 ans et demi, de 3,80 hectares. Et donc, effectivement, j'ai eu 2 ans et demi pour apprendre un petit peu à mieux connaître les arbres, qui étaient totalement inconnus pour moi encore il y a 5 ans. Et du coup, ça m'a permis d'avoir aussi le temps de réfléchir à la conception de ces 3,80 hectares et du choix des essences. Et puis, on a des pépiniéristes tout autour de l'agglomération qui sont drôlement intéressants, qui proposent vraiment un choix énorme d'essences. Donc voilà, j'ai pu me faire plaisir depuis 3 ans.
Alors du coup, j'ai vu que vous aviez créé des mares, choisi 70 essences d'arbres. Alors du coup, comment les arbres vont se compléter les uns les autres en fonction de ce qu'ils peuvent apporter ?
Voilà, alors effectivement, comme on n'a pas sur notre champ, qui est un champ de maïs il y a 3 ans, de système d'irrigation, en installant des petites mares, 4 petites mares hein, de moins de 100 mètres carrés de superficie, ça nous a permis effectivement, en ayant de l'eau, de pouvoir arroser nos arbres, notamment l'été quand il fait très chaud. Effectivement, les 70 essences, on a arrêté de compter à partir de 70 essences, parce que là, ça devenait compliqué. Mais effectivement, par exemple, on essaie de faire en sorte que dans les arbres qu'on plante, il y ait déjà 30% d'arbres qu'on appelle les fixateurs d'azote. Ce sont des arbres, en fait, qu'on appelle les colonisateurs. Ils viennent, en fait, si vous arrêtez de labourer n'importe quel champ en France, avec un tracteur et avec de l'essence et l'engrais, eh bien, vous allez voir toujours le même processus de succession écologique où vous allez avoir des herbes fixatrices d'azote et puis ensuite des arbustes et des arbres fixateurs d'azote qui, par leur système racinaire, vont recréer de la structure, apporter de l'azote. De l'azote, vous savez que 78% de l'atmosphère, c'est de l'azote. Ben, ces arbres ont la faculté de prendre l'azote atmosphérique et de le mettre dans le sol, dans des petites poches qu'on appelle les rhizobiums. Et du coup, lorsque vous coupez une branche, que l'arbre disparaît, eh bien, il relargue dans le sol ses réserves d'azote et va les rendre disponibles pour d'autres plantes autour. Donc voilà, on essaie de mettre ces 30% de fixateurs d'azote parce qu'ils vont restructurer le sol et puis naturellement, ils seraient venus de toute façon. Ils auraient mis un peu plus de temps, mais ils seraient revenus. Donc, on parle de d'aunes, on parle de bouleaux, on parle d'acacias. Hein, voilà, tous ces arbres qui vont recoloniser un terrain laissé vierge d'activité. Et puis, on essaie aussi de choisir un certain nombre d'arbres, aussi à peu près un tiers d'arbres, avec des feuilles persistantes l'hiver. Et notamment parce qu'on a des vents d'ouest très violents. Et que c'est toujours intéressant, finalement, de créer des haies qui vont stopper, en tout cas freiner, ces grands vents afin de pouvoir derrière cultiver ou de planter des arbres ou des plantes ou une production maraîchère qui pourrait souffrir de ces tempêtes. Donc le fait de planter des arbres à feuilles persistantes à peu près 30%, eh bien ça permet de créer cet effet brise-vent sur le vent d'ouest, mais aussi pour l'hiver, par exemple, pour le vent d'est ou le vent du nord qui sont un peu plus froids et qui peuvent notamment entraîner des gelées tardives. Voilà, donc on peut créer grâce à ces feuilles persistantes des microclimats qui vont un petit peu adoucir les extrêmes de température, que ce soit chaud ou que ce soit froid. Et puis, on essaie quand même d'avoir des arbres un peu épineux parce que c'est là-dedans que les oiseaux vont retrouver un abri, un refuge contre les prédateurs. Donc, le fait d'avoir aussi des arbres qui ont des feuilles par contre caduques, des grosses feuilles, par exemple du paulownia, qui est aussi un fixateur d'azote, mais aussi le catalpa, par exemple, peut aussi produire des feuilles mortes qui, pendant l'hiver, vont protéger la petite flore et la petite faune des gros gels, des grosses gelées, et voir en se décomposant au fil du temps, créer de la matière organique qui va réalimenter le sol, qui va lui-même réalimenter les arbres et les productions maraîchères, par exemple.
Donc du coup, c'est un cercle vertueux finalement avec cet équilibre de départ que tu reconstitues. Il y a un cycle qui va se remettre et le but, c'est effectivement, on entend bien jardin-forêt, il y a quand même l'idée de jardin aussi et de production au final pour pouvoir à terme, j'imagine, s'en nourrir, en tout cas pour tout ou partie.
Alors oui, alors effectivement le maraîchage, alors mon mari et moi avons déjà un travail qui nous prend beaucoup d'heures dans la semaine. Donc effectivement, on passe plutôt juste les week-ends sur notre parcelle et selon les saisons à y faire pousser des arbres ou des tomates. C'est vrai que on a commencé l'année dernière à s'investir un peu plus dans le maraîchage et on a été quand même très étonnés par la quantité de notre production, donc ce qui nous encourage à continuer. Cela dit, le maraîchage reste un loisir pour nous. Et une occasion de partager. Et puis, encore là, cette semaine, on a commandé plein de graines anciennes, variétés anciennes. On a commandé sur Cocopelli et la ferme Sainte-Marthe des tomates de toutes les couleurs, violettes, blanches. Et c'est vrai que c'est plutôt un amusement, un loisir et une source d'émerveillement plutôt qu'une production de maraîchage avec la pression économique. On n'est pas du tout là-dedans et pour l'instant... voilà, ça reste un loisir.
Ouais. Après, ne serait-ce que pour votre consommation à vous, c'est déjà...
Et celle de nos amis.
Et de vos amis, donc c'est, voilà. c'est déjà bien. Dans l'aventure, il y a votre fille, Juliette. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui pour nous donner son avis, elle est en vacances. Mais d'après toi, quel regard elle pose en tant qu'enfant finalement sur ce projet? J'ai envie de dire, elle a un petit peu grandi finalement en même temps que le projet.
Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez des quatre mares. Alors, effectivement, depuis qu'on a les mares dedans, on a des tritons, des libellules, des grenouilles, des salamandres et plein d'insectes. Et c'est vrai que depuis qu'elle est toute petite, elle s'émerveille devant toute cette vie qui est attirée par les mares, les hérons, les rapaces, même les chauves-souris la nuit. Donc voilà, elle a vraiment développé une sensibilité à la nature et donc du coup un respect pour la nature. C'est vrai que Juliette, à 5 ans, connaissait tout du cycle larvaire de la coccinelle. Hein. Elle a appris énormément de choses. Et puis, ce sont des moments magiques où même elle-même ou quand elle invite ses copines à passer quelques heures le week-end là-bas. Le fait qu'elle puisse voir des biches, des cerfs, voir des faons, le cirque à Jean Leblanc, des centaines, des milliers de palombes qui s'envolent, les hérons, les chouettes, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va beaucoup la marquer. Alors, elle rentre aujourd'hui dans l'adolescence puisqu'elle a 11 ans, et c'est vrai que là, elle est plutôt dans une phase de j'ai envie plutôt de me tourner vers mes centres d'intérêt à moi plutôt que ceux de mes parents. Mais je pense que ce qu'on a déjà semé comme graine depuis sa petite enfance est là et germera le jour où elle sera prête, où elle en sentira la nécessité. En tout cas, elle a cette sensibilité qui est au fond d'elle-même et je pense qu'il va rester.
C'est toute l'histoire de la transmission dans l'éducation. Dans cette idée de transmission, on peut dire aussi que tu parles avec plaisir et enthousiasme de ce projet. Il y a eu sur Radio MDM, dans l'émission qui est quand même pionnière et incontournable, Les Landes, c'est ma nature, il y a eu un épisode consacré à votre aventure familiale. C'était en septembre 2020 et on peut encore retrouver le podcast sur radio-mdm.fr. Alors j'ai regardé, c'est le podcast numéro 103 de cette émission. Il y a eu aussi deux articles sur le blog des Jardins Reconnaissants. L'adresse, c'est jardinsreconnaissants.com, suite à des visites qui avaient été organisées avec l'association sur le terrain. Et dans ces articles, tu détailles justement la notion de système et d'équilibre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que l'association des jardins propose chaque année un festival de cinéma, c'est l'Alterciné, qu'on propose en partenariat avec l'ALPAD. Donc l'association landaise pour la promotion de l'agriculture durable, ça a lieu chaque année donc au cinéma Le Grand Club. Et souvent dans les films qui présentent, qui parlent de permaculture, d'agroécologie, il y a cette idée qui est mise en avant que le problème est la solution, EST. Et je trouve que c'est vraiment très clair dans un exemple que tu donnes. Tu expliques par exemple qu'il y a du gibier qui circule sur le terrain. On peut considérer que c'est un problème quelque part puisque les arbres tout jeunes risquent d'être mangés. Il faut donc les protéger avec des gaines anti-chevreuil. On pourrait considérer que c'est quelque chose de négatif, que c'est un surplus de travail. Et tu expliques que finalement, il peut y avoir aussi des avantages à ces gaines. Elles vont par exemple capter la rosée et la redescendre vers le sol. Les oiseaux vont venir se percher sur ces gaines et grâce à leur déjection, ils vont nourrir le sol et même des fois y déposer des graines. Finalement, cette idée d'équilibre, on se dit qu'elle peut surgir là où on ne l'attend pas.
Alors, l'équilibre, effectivement, je pense que le tout, c'est de passer à l'action. C'est vrai que quand j'ai découvert la permaculture, à l'époque, c'était parce que j'étais dans mon salon sur un fauteuil roulant suite à un accident. Et c'est vrai que j'imaginais beaucoup de choses. Et j'imaginais déjà mon jardin forêt quelque part dans ma tête, dans mes lectures. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on passe à l'action, je pense qu'effectivement, on se laisse un peu bluffer par les effets qu'on n'attendait pas. Et c'est vrai que l'histoire de ces gaines montre que, effectivement, utiliser des gaines en plastique pour protéger mes arbres, ça a été un problème éthique. Mais finalement, l'observation m'a permis, au bout de quelques mois, de m'apercevoir que des gaines en plastique permettaient effectivement de récolter la rosée. Et Dieu sait s'il en a, puisque je crois savoir que 1000 kilos de matière organique produisent 600 kilos d'eau, mais d'eau nouvelle, c'est pas de l'eau de l'évaporation. D'accord. Ou de la nappe phréatique, c'est vraiment de la production H2O issue de la photosynthèse. Donc cette eau-là, effectivement, elle est récoltée et utilisée au pied de l'arbre grâce à ces gaines. Mais par exemple, nous, quand j'ai acheté ce champ, je vous avoue que mon mari n'a pas du tout compris ma démarche. Et je peux même dire, et il le reconnaît lui-même, qu'il était un petit peu en colère parce qu'il ne saisissait pas ma démarche. Et sans essayer de le convaincre de quoi que ce soit, tous les dimanches matins, j'allais toute seule à Basconce pour planter mes premiers arbres. Et au bout d'un an et demi, il posait des questions en disant « Mais pourquoi ?» Enfin, elle me dit qu'elle revient à midi 1h, et puis finalement, elle revient vers 4h, elle n'a pas vu le temps passer. Qu'est-ce qu'il y a sur ce champ qui fait qu'elle a envie d'y revenir tous les dimanches matins ? Et au bout d'un an et demi, mon mari a dit « Écoute, je vais t'accompagner, et puis si je peux te donner un coup de main, tu me dis. » Et voilà 2 ans que mon mari est complètement devenu accro. On peut parler d'addiction réelle. Et effectivement, si il lui venait un week-end où il ne pouvait pas aller sur le jardin forêt, il serait mal toute la semaine parce qu'il en a vraiment besoin. C'est devenu aussi sa bulle d'oxygène. Et même au niveau structure de la famille, vous voyez que je pensais faire ce projet toute seule dans mon coin, comme mon loisir à moi, et c'est devenu celui de toute la famille. Donc, et il n'y a qu'en passant dans l'action qu'on peut s'apercevoir de ces effets imprévisibles et d'en bénéficier. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça nous rend heureux tous les trois.
Donc, on a un écosystème dans la nature et un écosystème humain aussi.
Exactement.
Les bénéfices sont très larges.
Et même au-delà de ça, les jardins reconnaissants, justement, vous en parliez à l'instant, on proposait à leurs adhérents une visite du jardin forêt et on ne pensait pas qu'il y aurait autant de gens qui seraient intéressés par le principe. Pendant, je vous avoue que mes arbres, ils sont tout petits. Je les achète, ils font 20-30 cm de haut. Donc, c'est largement pas encore une forêt en 3 dimensions. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, qui posent des questions dessus. Et ça aussi, c'était pas ce qu'on pensait viser comme résultat. Et pourtant, c'est bien là aujourd'hui.
Et pourtant, le résultat est là.
La suite de cette fascinante chronique arboricole menée par Isaac Ayou avec Sabine Charles dans un instant pour l'heure musique, maestro.
Gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.
Je t'appelle, tu raccroches, ça ne laisse plus le choix. Tu n'aimes plus vraiment, on va s'arrêter là. Moi j'étais pourtant sûre que ça viendrait de moi, car tu m'aimais si fort, encore un peu je crois. Mais le printemps s'approche des semaines et des mois, je n'attends plus vraiment quand fleurit le lilas. Oui j'avais la peau dure mais tendre sous tes doigts, elle s'endurcit encore, bien éloignée de toi. Bien éloignée de toi. Bien éloignée de toi. De quelqu'un comme de toi, je n'imagine plus vraiment me dévoiler comme ça. Non, jamais d'imposture blottie entre tes bras. Le mensonge est plus fort quand tu ne me vois pas. Quand tu ne me vois pas. Mais le printemps s'éloigne des semaines et des mois. Je n'oublie pas vraiment quand fane le lilas. Oui, j'avais la peau dure mais tendre sous tes doigts. Elle s'endurcit encore, bien éloignée de toi. Bien éloignée de toi. Qui s'évanouit
Faites vos valises, restez sur MDM.
On s'approche maintenant du cœur de cette chronique, puisqu'on va parler des arbres de façon plus précise. Et il y a trois questions qui sont maintenant rituelles dans cette chronique, plus une question bonus. Est-ce que Sabine, tu es prête ?
Je suis prête.
Alors, on y va. La première question, tu nous as présenté ton parcours qui t'a amené à créer cette forêt-jardin. Est-ce que, bien avant ça, est-ce que tu as un souvenir, une émotion, une anecdote de toi, enfant ou adolescente, avec les arbres ou avec la nature ?
Alors, j'en ai plein parce que ma famille maternelle est agricultrice et c'est vrai que j'ai des merveilleux moments de mon enfance ensoleillée dans la Drôme, dans les champs et au milieu des chèvres. Mais plus particulièrement reliée aux arbres, oui, l'adolescence, c'est-à-dire que j'étais fille de militaire, on déménageait tous les deux ans. Et c'est vrai qu'on changeait d'école tout le temps et j'avais pas le temps de me faire des amis et qu'on repartait déjà. Et c'est vrai que je me souviens dans mon adolescence que je grimpais beaucoup aux arbres. Je passais beaucoup de temps dans les arbres. J'ai découvert ensuite, en tant qu'enseignante responsable de la recherche à l'école d'infirmière, que en lisant qu'il y a des travaux japonais qui montrent que le fait d'être dans les arbres ou sous les arbres dans la forêt, comme l'était Australopithèque et Homo sapiens, fait que les arbres sécrètent des molécules qu'on appelle les phytoncides. Et ces phytoncides, lorsqu'ils sont inhalés par les humains, et du coup les chercheurs, en faisant des prises de sang, le constatent eux-mêmes, le mesurent à la millimole près, baissent la sécrétion de cortisol par les glandes surrénales, dopent la sécrétion de sérotonine au niveau des neurotransmetteurs du cerveau. Et la sérotonine, c'est du Prozac en fait, c'est un antidépresseur. Et nous permettent aussi de sécréter beaucoup plus de dopamine, la dopamine étant un neurotransmetteur, une substance, celle qui est sécrétée en guise de récompense, qui nous donne le sentiment d'être récompensé. Donc voilà, et c'est vrai qu'adolescente, maintenant que je sais ça, je me dis que le fait d'être dans les arbres m'apportait vraiment beaucoup de sérénité, me consoler, me donner une forme de présence et participer forcément à ce bien-être que je ressentais intuitivement, mais qui est aujourd'hui mesuré par des chercheurs en biochimie.
De façon scientifique.
Carrément.
C'est beau. Et alors du coup, l'avenir, ben, c'est la jeunesse. Alors on a une pensée pour Juliette, même si elle est en vacances. J'imagine que des souvenirs marquants avec Juliette sur le terrain, tu dois en avoir des tas. Mais est-ce qu'il y a une petite anecdote que tu pourrais nous partager plus particulièrement ?
Alors, ça faisait 2 ans et demi que je cherchais un terrain. Et enfin, j'ai une proposition pour me le vendre et que je ne peux absolument pas refuser. Et du coup, trop fière hein, de mon acquisition, j'en parle à ma collègue et amie, dont le mari est chasseur. Je leur dis, il faut que vous veniez voir mon champ de maïs. Et c'était au printemps, et donc du coup, le maïs n'avait pas eu le temps d'être semé cette année-là. Et nous avançons dans le champ avec les amis, et Juliette nous précédait de quelques dizaines de mètres, puisqu'elle courait, elle. Nous, on discutait. À un moment donné, on voit notre fille stoppée dans les grandes herbes et on voit un énorme cerf à 4-5 mètres devant elle se relever. Visiblement, il était en train de faire la sieste. Et il la fixe. Voilà. Alors, c'est sûr que sur le moment, on s'est posé la question de...
Voilà, qu'est-ce
qui va se passer ? Et ça nous a paru une éternité. Le cerf, avec ses magnifiques ramures, regarder notre fille qui n'était pas très haute hein, et la regarder et puis partir tranquillement.
Wow.
Et c'est voilà, et franchement je me suis dit mais ouais c'est vraiment particulier, c'est vraiment la nature quoi.
Oh là là, il y a des images comme ça qui doivent vraiment rester fortes.
Ah oui, ben oui, parce que ma fille semblait toute petite comparée à cet immense animal. Ah oui, 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 c'était... Puis notre ami était chasseur, donc nous disait qu'effectivement, c'était assez exceptionnel à voir, quoi, ouais.
Merci beaucoup pour cette anecdote. La deuxième question, on revient à aujourd'hui et maintenant, et je vais te demander un arbre que tu as envie de mettre en avant pour son intérêt, pour son esthétique ou parce que c'est ton coup de cœur.
Alors, j'aimerais parler de l'arbousier. Parce que l'arbousier, c'est un arbre endémique ici. Hein. On en trouve déjà dans les Landes depuis très longtemps. Il monte jusqu'en Irlande. C'est plutôt un arbre qu'on connaît, plutôt méditerranéen, plutôt justement l'est de la Méditerranée, en Turquie, au Moyen-Orient. Mais il s'acclimate bien, je trouve, dans les Landes. Alors, il est intéressant parce que bah, déjà, vous pouvez faire de la confiture et de l'eau de vie, ce qui n'est quand même pas négligeable. Hein. Vous trouverez des recettes. Ça s'appelait même le loup des nattes, je crois. Hein. C'est à la fin du 19e siècle, on trouve trace en 1865 d'un loup des nattes qui était fabriqué, une liqueur fabriquée à Arcachon avec de l'arbousier. Maintenant, c'est un peu grumeleux, donc il y a des gens qui aiment plus ou moins bien. Et puis sa fructification est plutôt sucrée si par exemple il y a une arrière-saison très chaude dans les Landes. Donc il y a des années où le fruit est plus ou moins sucré. Et puis moi je le trouve intéressant parce que il a la particularité de fleurir en même temps qu'il fructifie. C'est-à-dire que quand il fait ses jolis fruits, eh bien vous pouvez voir qu'à côté il fait des petites fleurs blanches, presque comme des clochettes de muguet. Et en fait, il est déjà en train, à travers ses fleurs, de préparer les arbouses de l'année suivante. Donc, en même temps que sa fructification qui a lieu entre octobre et décembre, donc vous voyez juste avant l'hiver, eh bien, il propose ses fruits. Alors, à la faune, en plus, une quinzaine d'oiseaux sont intéressés pour manger ses fruits. Donc, déjà, vous permettez à une quinzaine d'espèces d'oiseaux de pouvoir engraisser un petit peu avant l'hiver. Et puis, en même temps, vous permettez à des abeilles de venir faire leur dernier nectar avant l'hiver. Hein, donc, pour éviter la pénurie, pour tenir tout l'hiver. Et puis, donc, il est mellifère. Il a des feuilles persistantes, comme je le disais. Donc, c'est un arbre qui va très bien supporter les embruns. Donc, il peut constituer une haie brise-vent. Donc, je pense qu'avec les aléas climatiques qu'on est en train de rencontrer de plus en plus, c'est toujours intéressant d'avoir un arbousier ou deux dans sa haie. Et puis, il a des vertus médicinales. Voilà. Il est connu depuis l'Antiquité, puisque Virgile l'appelait l'arbustus et Pline l'Ancien l'appelait unedo. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu arbustus unedo ensemble, en hommage à ces deux... à ces deux illustres écrivains.
Et enfin, la troisième question, la plus importante, parce qu'on va parler gourmandise, quel arbre fruitier, quel arbuste fruitier tu peux conseiller aux auditeurs, aux auditrices de Radio MDM ?
Moi, j'aime bien un arbre qui est le tilleul. Alors, je manque peut-être d'originalité, mais ça prouve bien que le tilleul, il est ancré dans notre culture occidentale déjà depuis quand même quelques millénaires. Il faisait partie de ces arbres sacrés hein, dont on prenait soin dans les villages. Il peut monter jusqu'à 20, 40 mètres même, pour certains. Alors, il y a les grandes feuilles, les petites feuilles. J'aime moins les feuilles argentées, parce qu'il aurait une toxicité visiblement, ça reste à prouver, sur les pollinisateurs. En tout cas, le tilleul à petites et à grandes feuilles, je le trouve intéressant. Il est médicinal, hein, qui n'a pas entendu parler de la fameuse tisane de tilleul qui fait baisser la fièvre, la douleur, qui permet de mieux dormir le soir. Mais en plus, faut savoir que dans les orphelinats en France, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et notamment pour donner de la viande à des enfants en pleine croissance. Alors pour contrecarrer cette pénurie et ne pas créer de carence en protéines chez ces enfants, eh bien, ils mélangeaient la farine de blé avec de la farine de tilleul, c'est-à-dire qu'ils récoltaient les feuilles, les laissaient sécher, ils la réduisaient en farine, ils en mettaient 30% dans la farine. Donc déjà, ça augmentait le volume de farine et ça permettait de faire des gâteaux ou des pâtisseries, en tout cas de la cuisine, avec un peu plus de teneur en protéines. Donc sucre lent de la farine plus protéines du tilleul, ça donnait quand même quelque chose sur le plan nutritif très intéressant. Mais on peut faire aussi de la limonade de tilleul si on fait des recherches. On peut faire des dolmas de tilleul. Les feuilles jeunes peuvent se manger en salade. Donc voilà, c'est un arbre qui est drôlement sympa. Il est mellifère. Et pour nos petites abeilles, justement, à la sortie du printemps, c'est toujours bien pour elles d'avoir la possibilité à travers ces bonnes fleurs odorantes, de fabriquer du miel pour nous ensuite. Mais en plus, vous voyez qu'il peut aussi, celui-là aussi, nous nourrir et nous soigner. Donc, Voilà, j'aime bien le tilleul. Faut le planter assez rapidement parce qu'il a une croissance plus lente quand même.
Merci beaucoup Sabine pour ton accueil, pour cet échange. Et je te laisse donc le mot de la fin avec une citation qui t'inspire et qui pourra aussi nous accompagner.
Alors, j'aime beaucoup Gandhi. Je trouvais qu'il avait quand même des expressions très, très sages, qui me parlent en tout cas. Il y en a une particulièrement qui m'inspire beaucoup, c'est « l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul ». Et c'est vrai que j'ai des gens qui m'ont montré l'exemple et j'ai envie aujourd'hui de les suivre. Et puis même mon mari, vous voyez, à travers ce que je disais, il s'est mis à la permaculture et j'espère que, effectivement, on va être de plus en plus nombreux à être inspirés par cet exemple de la permaculture.
Merci beaucoup en tout cas pour cet échange qui va pouvoir aller dans ce sens. On vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. À vous Margot, à vous les studios.